Le sujet proposé par les frères de Loriol pour la méditation aujourd'hui est le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elles que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage
d'être juste,
Dieu rendant témoignage à ses dons. Et par lui, étant mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il recherche. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit, et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Et, par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage. Et il s'en alla ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes avec Isaac, et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela étant hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est pourquoi aussi, d'un seul et d'un homme déjà amorti, sont nés des gens qui sont comme les étoiles du ciel en nombre et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne peut se compter. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et en effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham étant éprouvé, a offert Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, à l'égard duquel il avait été dit, en Isaac ce sera une semence, ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts, d'où aussi en figure il reçut. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü à l'égard des choses à venir. Par la foi, Jacob mourant, bénit chacun des fils de Joseph et adora appuyé sur le bout de son bâton. Par la foi, Joseph, en terminant sa vie, fit mention de la sortie des fils d'Israël et donna un ordre touchant ses os. Par la foi, Moïse, étant né, fut caché 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il a fait la Pâque et l'aspersion du sang, afin que le destructeur des premiers-nés ne les touchât pas. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, ce que les Égyptiens ayant essayé, ils furent engloutis. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour 7 jours durant. Par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru, ayant reçu les espions en paix. Et que dirais-je davantage? Car le temps me manquera si je discours de Gédéon, de Barak et de Samson et de Jephté, de David et de Samuel et des prophètes qui, par la foi, subjuguèrent des royaumes, accomplirent la justice, obtinrent les choses promises, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de faibles qu'ils étaient furent rendus vigoureux, devinrent forts dans la bataille, firent ployer les armées des étrangers. Les femmes reçurent leur mort par la résurrection, et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres furent éprouvées par des moqueries, et par des coups, et encore par des liens, et par la prison. Ils furent lapidés, sciés, tentés. Ils moururent égorgés par l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dans le besoin, affligés, maltraités, desquels le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes et les cavernes et les trous de la terre. Et tout ceci, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Dieu, ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. Dans le chapitre précédent, je lirai le verset 35 à 38. Ne rejetez donc pas loin votre confiance, qui a une grande récompense, car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Or, le juste vivra de foi.
En proposant ce sujet, nous avions devant nous ce qu'est la foi, ce que la foi produit, et puis l'objet de la foi. C'est ainsi que nous occuperons de ces chapitres 11 et les deux premiers versets du chapitre 12. Car la foi a besoin d'un objet. Et Jésus, le parfait modèle, avait devant lui un objet. Ce qui frappe dans cette épître, c'est d'abord il y a deux parties. La première partie doctrinale, dirions-nous, qui se termine au chapitre 10, verset 18. Et puis, les conséquences dans les chapitres suivants. Ce qui frappe dans cette épître, c'est qu'il n'y a pas de nom d'auteur. Ce n'est pas un apôtre, il ne nous est pas dit que c'est un apôtre qui a écrit cette lettre, alors que toutes les autres lettres sont signées, parce que il y est question avant tout de celui qui est l'envoyé, de celui qui est le grand pasteur des brebis. Au chapitre 3, verset 1, il nous est parlé de l'apôtre, et plus loin, dans le dernier chapitre, du grand berger des brebis. Et Dieu s'empresse, et comme est pressé, de nous présenter qui est ce berger, qui est ce fils, cet objet de la foi. Et Dieu, ayant parlé en plusieurs manières, et à plusieurs reprises, par les prophètes, à sa fin de ses jours, nous a parlé dans le Fils. Et quel est-il ce Fils? Celui qui est le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, tellement supérieur aux anges, tout en ayant été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tellement supérieur à Moïse, et son œuvre tellement excellente, dépassant en effet tout ce qui était dit du cérémonial lévitique, qui n'était qu'une ombre des choses à venir, nous parlant de celui qui tient cette place si élevée, l'œuvre étant si parfaite, et il s'est assis, et assis à perpétuité, nous dit l'Épître. Son œuvre est parfaite, elle est glorieuse, et nous sommes invités à entrer. Et puis, quels étaient ceux à qui cette lettre était destinée? si l'Épître porte l'Épître aux Hébreux, il ne vous a pas dit s'ils étaient vraiment des Juifs. Ils connaissaient l'enseignement juif. Ils connaissaient le rituel judaïque, lévitique. Et mais il nous est dit que au chapitre 5 et verset 11, ils étaient devenus paresseux à écouter. Alors, que vous devriez être des docteurs vu le temps, vous avez de nouveaux besoins que vous enseignent quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Au lieu d'être des hommes faits, ils étaient restés de petits enfants. Et n'est-ce pas aussi le cas dans chacun d'entre nous? Quels gens devrions-nous être dans la connaissance des pensées de Dieu, dans la connaissance de Jésus, celui qui est Dieu même, celui qui a créé toutes choses par sa parole? Mais s'il a fallu simplement sa parole pour créer, pour sauver, il a fallu le grand sacrifice de lui-même. Et ils étaient devenus paresseux, et pourtant, il y avait quelque chose qui les caractérisait dans ce chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Il nous a dit, il y avait eu des jours précédents, il y avait eu ce premier amour, il y avait eu cette foi totale dans les promesses de Dieu, et ils avaient enduré un grand combat de souffrance, verset 32. Ils avaient connu les opprobres, verset 33, des afflictions. Ils y avaient eu de la sympathie pour ceux qui avaient été aussi, connaissaient ces choses. Et ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Et puis voilà, ils se refroidissaient. Ils étaient devenus de petits, restés de petits enfants. Et l'apôtre vient les encourager. Dieu vient les encourager par sa parole. Et il va faire défiler devant eux cette lignée d'hommes de foi. Mais d'abord, qu'est-ce que la foi? Ah, la foi, il nous a dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il nous a dit dans Romains que nous sommes sauvés par la foi. C'est la foi qui sauve. L'Épître aux Éphésiens nous parle aussi de cette foi. Avons-nous tous la foi, c'est-à-dire la confiance totale, entière, dans la parole de Dieu, dans la déclaration même de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais cette foi a un objet c'est Christ lui-même, c'est ce que Dieu est par lui-même aussi. Et elle se nourrit, cette foi, par la parole de Dieu. Dans Romains 10, nous pourrions lire, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut le connaître. Et Dieu se révèle à nous, à travers les Écritures, comme celui qui est digne de toute notre confiance. Nous reposons parfaitement sur ce qu'il a dit, car ce que sa bouche a dit, sa main aussi l'accomplira. Et Dieu attend des fruits. Nous pouvons dire avoir la foi, mais Dieu attend de voir des fruits de cette foi dans nos vies. Et c'est ainsi qu'il fait passer devant nous, comme dans une galerie de portraits, et nous pourrions défiler dans cette galerie, considérant les portraits les uns après les autres, nous arrêtant devant certains, considérant ce que cette foi a pu produire. Nous pourrions être aussi comme écrasés devant un Abraham, devant un Moïse, mais il y a aussi dans cette galerie de portraits une Rahabe. Et nous aimerions nous arrêter devant chacun d'eux, non pas pour essayer de comprendre, essayer d'avoir un portrait de cette personne, mais de ce que la foi a produit, de ce que Dieu a relevé chez les uns et chez les autres, de ce que Dieu désire aussi voir dans nos vies, quelque chose de produit. Car ce qui honore Dieu, ce qui glorifie Dieu, c'est cette foi. La foi, cette confiance totale, entière, sans aucune condition sur ce que Dieu a fait. Dans Abel, nous avons la rédemption. Dans Enoch, nous avons la marche. Dans Noé, c'est celui dont la marche condamne, juge le monde dans lequel il se trouve. Les temps, les siècles ont passé. La foi, et le Seigneur pouvait dire, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Et nous avons lu tout à l'heure dans ce chapitre 10 que l'homme, le juste, vivra de foi. C'est un verset qui est cité 4 fois dans l'Écriture. Dans Habacuc, c'est « il vivra par sa foi ». Il nous est cité encore dans Romains 1, dans Galates, et ici, « le juste vivra de foi ». Une confiance entière, je me répète, dans les promesses de Dieu, dans ce que Dieu est. Et si la foi a pu ainsi avoir des effets particuliers dans la vie de ces 3 hommes, et nous est présenté dans Abraham, celui qui obéit, car la foi aussi, c'est l'obéissance, comme l'amour. On obéit sans voir, parce que c'est Dieu qui a dit. Et puis la foi est aussi cette mesure, et la seule mesure que nous avons pour mesurer les choses de ce monde, la valeur de ces choses comparée à nos biens éternels. Moïse appliquait cette mesure. Oh, c'est une mesure infaillible. Devant lui, il y avait tous les trésors de l'Égypte, la sagesse des Égyptiens, et puis il y avait l'opprobre de Christ. Il y avait Christ lui-même. Et que fait cette foi? Elle choisit, elle estime, elle considère et elle rend visible celui qui est invisible. Nous n'avons pas seulement besoin de foi dans les mauvais jours, nous en avons besoin à chaque instant de notre vie. Il y a des choix dans nos vies. Il y a cette manière de vivre dans ce monde, et ce monde observe et regarde ceux qui se disent croyants. Comment marchent-ils? Quelle estime ont-ils de ces choses dont ils parlent, de ces choses qu'ils ne voient pas, mais qu'ils considèrent comme étant là, de ces choses invisibles aux yeux de ce monde, mais qui disent être réelles pour eux? Et ce monde regarde, et un témoignage peut être rendu à cette foi, à cette confiance que nous avons à la parole de Dieu. Elle rend présent l'avenir, elle nous donne de posséder, sans tenir, sans le voir dans la main, ce que Dieu a promis. Puissions-nous retirer de ces moments quelque chose qui honorera ce Père, ce Dieu qui nous a tant aimés, celui qui nous a donné son Fils, l'objet de la foi, cette ancre ferme à laquelle cette foi s'accroche, celui qui, à cause de la joie qui était devant lui, endurait la croix. Nous désirons, en effet, qu'il en résulte, et c'est le désir même de Dieu, qu'il en résulte pour nos vies de chaque jour, et pour chaque pas que nous avons à faire ici-bas, quelque chose à la gloire, à la louange de celui qui nous a tant aimés.
On vient de le dire, nous ne sommes pas ici dans la partie doctrinale de l'Épître, mais bien dans les applications pratiques, dans les exhortations. Et je pense que nous avons à aborder ce sujet d'une si grande importance dans cet esprit d'humilité. Nous avons besoin, cela est revenu à plusieurs reprises dans nos prières, nous sentons que nous avons besoin d'être repris, d'être exhortés, et ce sujet qui est d'une grande simplicité. Il n'y a rien de compliqué dans tout cela. Et un sujet d'une importance primordiale quant à la vie du croyant. Aussi, la déclaration que nous trouvons au chapitre 10 trouve sa place, comme cela a été rappelé, dans l'Épître aux Romains et dans l'Épître aux Galates. C'est avec, nous le savons bien, des applications différentes. Non, l'Épître aux Romains, au premier chapitre, c'est le juste qui vit de foi. C'est la justification. La foi, élément essentiel de la justification. Comment un homme sera-t-il juste? Par la foi. Dans les Galates, nous le savons bien, chapitre 3, sauf erreur, c'est la question, l'opposition de la loi et de la foi. Comment quelqu'un aura-t-il la vie? Par la foi? Oui. Par la loi? Non. L'accent mis donc, en romain, sur ce terme, le juste. Dans l'Épître aux Galates, sur ce terme, la foi. Ici, sur le mot vivre. C'est la vie. Ce sont les conséquences pratiques. C'est la foi dans le chemin de chacun. Et les exemples, là, se déroulent. Les chrétiens juifs, auxquels sont adressés tout particulièrement les derniers versets du chapitre 10, avaient, nous le savons bien, cette tendance à abandonner les choses excellentes, les choses célestes auxquelles ils avaient été amenés, pour revenir aux éléments visibles du culte mosaïque. Et l'apôtre a besoin de les détourner de ces choses qui se voient, mais des choses établies par Dieu, mais pour la terre, pour la vue, et de fixer leur regard sur celles qui ne se voient pas. Les choses célestes. Nos regards à nous s'attardent sur des choses qui se voient. Oh, bien souvent, beaucoup trop. Des choses qui sont pour un temps. Et ce ne sont pas, même comme pour les Juifs, des choses instaurées par Dieu pour des relations dans un certain temps. Mais hélas, ce sont souvent les choses de ce monde même. Et je pense que cette parole vient à nous aujourd'hui pour précisément produire en nous ce que nous trouvons à la fin de Corinthiens 4. Regard n'étant plus, ne s'attardant plus sur les choses qui se voient, les choses qui sont pour un temps, mais s'attachant aux choses qui ne se voient pas parce que elles sont éternelles. Mais s'adressant à des Juifs, l'apôtre vient leur montrer que cette vie de foi à laquelle ils sont appelés n'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce qui a toujours caractérisé tous les hommes en rapport avec Dieu. Qu'est-ce que la foi ? Oh, elle peut se définir en deux mots. La foi, c'est croire Dieu. Croire Dieu. Non pas croire en Dieu seulement, mais croire Dieu. Saisir sa parole avec une entière assurance. J'aime évoquer quelquefois le souvenir d'un frère depuis bien longtemps déjà dans le repos et qui avait dans ses prières des expressions bien simples. et qui revenait souvent, et qui nous redisait souvent, dans ses prières, et Seigneur, accorde-nous de recevoir ta parole avec une pleine certitude. Et pour le jeune que j'étais alors, cela me semblait vraiment une demande bien souvent répétée pour quelque chose qui allait de soi. Et au fur et à mesure qu'on avance, on sent le besoin de la répéter, cette prière. Ah, que la parole de Dieu fasse autorité, fasse loi sur nos âmes. Qu'elle ait toute sa puissance, que nous la recevions avec une entière certitude. Et dans nos temps, cette demande dépendante de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous accorde cela, est d'autant plus nécessaire que nous voyons cette certitude accordée à la parole de Dieu saper de toutes parts. Ah, que du moins, nous restions ainsi fermes, attachés à cette parole. Dès l'entrée du chapitre, c'est ce qui nous est présenté. Par la foi, verset 3, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous le dit cela? Cette parole même. Dieu créa, la foi saisit cela, toutes ces questions qui agitent le monde, toutes ces questions vaines que se posent les savants, tout cela tombe pour nous devant cette simple certitude que nous accordons à la parole de Dieu. Dieu créa. Et nous comprenons. Nous verrons à plusieurs reprises au cours de ce chapitre que la foi est intelligente. Ah, très souvent, justement, et là, aux yeux des incrédules, cette apparence d'un renoncement à la raison. Oui, c'est un renoncement à la raison. Pourquoi? Parce que la raison humaine est trompeuse. Mais elle est intelligente. Elle a l'intelligence des pensées de Dieu, ce qui est la seule source du savoir. Et nous comprenons. Ce sont des choses qui, pour nous, prennent une évidence entière. Par la foi, nous comprenons. Ce qui, pour le monde, est quelque chose précisément d'incompréhensible, est pour nous quelque chose d'une évidence intérieure. Et c'est le caractère de la foi. Une évidence intérieure quant à des choses que l'intelligence humaine ne peut pas sonder, que les sens ne peuvent pas voir. Mais par la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Voilà une pleine certitude. L'espérance prend une grande place dans la parole de Dieu. Et nous sommes dans le temps d'espérance. L'espérance ne s'attache pas aux choses qu'on voit. Car si nous voyons, comme le dit l'Épître aux Romains, ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espérerait-il? S'il l'espère, c'est qu'il ne le voit pas. C'est qu'il ne l'a pas. Il l'attend, mais la foi lui donne de l'attendre avec une pleine assurance. L'assurance des choses que l'on nous faire. Et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration intérieure qui ne supporte aucun doute. Bien plus ferme que l'assurance de ce que nous voyons. Que de foi nos yeux peuvent nous tromper, mais la foi ne trompe pas. Elle présente devant nous des choses dont nous pouvons avoir la pleine conviction. C'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Voilà ce qui va être développé tout au long des versets suivants. Oui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui est introduit avec le christianisme. C'est ce qui caractérise tous les rapports des hommes de Dieu avec Dieu lui-même de tout temps. Et les anciens ont reçu témoignage. Nous insistons bien, nous trouvons souvent cette expression dans les premiers versets surtout, recevoir témoignage, ce n'est pas absolument pas rendre témoignage, c'est tout autre chose. C'est recevoir pour soi-même, en soi-même, le témoignage de Dieu. Comme quelque chose qui ne peut manquer, quelque chose d'absolument certain. Les anciens ont reçu témoignage. Et témoignage varié, comme nous le verrons par la suite, mais ces communications de Dieu, ces déclarations de Dieu, ces témoignages de Dieu sont reçus, ont été reçus par les anciens, avec une certitude entière, par la foi. Et tout au long du chapitre, c'est ce que nous verrons, cette pleine assurance de foi, trouvons-nous ailleurs, pleine assurance de foi, un chapitre auparavant, penchons-nous en pleine assurance de foi, chapitre 10. La foi, c'est le domaine des choses assurées, des choses certaines. Et à ce propos, un petit mot encore, nous avons eu dans nos prières le souci de ceux qui pourraient ne pas avoir la foi. Et nous leur présentons ceci, tout ce que le monde leur présente est marqué du sceau de l'incertitude, du sceau du doute. Et nous avons affaire ici aux choses certaines.
La foi est un don de Dieu. Nous souvenons de ce passage d'Éphésiens. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Comment naît la foi dans un homme? C'est quelque chose de merveilleux. Comment naît cette foi? Eh bien, elle naît par deux choses. La parole et le Saint-Esprit opérant dans un cœur. On reçoit le témoignage de Dieu et par cela, on scelle que Dieu est vrai. La foi, il faut la considérer sous deux côtés. Sous ce côté-là, d'abord, on reçoit un témoignage. On accepte un témoignage. J'accepte le témoignage de Dieu quand il me dit « Je suis perdu. Je ne puis rien faire pour me présenter devant Dieu avec une justice qui puisse convenir à cette présence. » J'accepte ainsi ce témoignage. Et je reçois aussi l'autre côté du témoignage, c'est que Dieu m'a donné un sauveur, une justice, par laquelle je puisse m'approcher de Dieu et me tenir ainsi dans sa faveur. Et puis il y a l'autre côté qui suit celui-là, c'est qu'avant tout, la foi est une confiance entière, totale en Dieu. Je suis dans sa faveur et la foi ainsi me fait réaliser cette confiance en Dieu totale. Nous avons là dans ce chapitre la puissance de la foi. La patience, mais il faut la puissance. Et nous le pouvons le voir dans l'épître aux Colossiens. Dans l'épître aux Colossiens, quand il nous est dit en effet que nous soyons fortifiés par la gloire de Dieu pour toute patience. Et puis nous verrons dans le cours du chapitre comment ainsi la foi déploie sa puissance. Pourquoi la foi est-elle forte? Pourquoi la foi est-elle puissante? Pourquoi la foi peut-elle répondre à toutes les circonstances dans lesquels se peuvent trouver ce monde à cause du péché. Pourquoi? Parce que la foi fait intervenir Dieu. C'est vrai, Dieu est là. Et c'est ça qui est la force de la foi. Et nous avons ici dans l'exemple de, justement, d'Abel, un double témoignage. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice a reçu le témoignage d'être juste. Et puis nous voyons Dieu rendant témoignage à ses dons, à ses dons. La foi rend intelligent. La foi nous met toujours, toujours, non pas dans le courant des pensées de l'homme, mais la foi nous met toujours dans le courant des pensées de Dieu. Toujours, toujours. C'est par la foi qu'Abel a compris que le péché étant entré dans le monde, il fallait entre lui et Dieu une victime. C'est la foi qui lui a enseigné ça. C'est par la foi. Et il prend un agneau de son troupeau, il répand le sang, et il le met entre lui et Dieu. Ici, ce qui est présenté, c'est justement cette foi d'Abel. Et ce qui est précieux, c'est ce que Dieu vient de dire, c'est que Dieu déclare que Abel est juste. Non pas que Dieu est juste, nous savons très bien que Dieu est juste. Mais Dieu déclare qu'Abel est juste. C'est précieux, ça. C'est précieux. Dieu vient me dire que je suis juste maintenant. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu à Dieu avec le sacrifice qu'il m'a donné. Parce qu'il y a, les deux choses. Dieu donne un sacrifice, et puis moi, par la foi, je accepte ce sacrifice et je m'approche de Dieu par ce sacrifice et je reçois ce témoignage de la part de Dieu, tu es juste, tu es juste. Et puis la seconde pensée, justement, quand il nous a dit que Dieu rendant témoignage à ses dons. Alors, je suis approché de Dieu selon toute la valeur, toute l'excellence du sacrifice qui a été offert. Dieu rend témoignage à ses dons, et je suis là agréé en Dieu, par Dieu, selon la vertu, selon la puissance du sacrifice qui a été offert, et l'excellence de la personne, celui qui a offert ce sacrifice. Et voilà, voilà les tout témoignages. On ne peut pas vivre de la foi. On ne peut pas mettre sa confiance en Dieu. On ne peut pas faire intervenir Dieu dans toutes ces circonstances. Si d'abord, on n'est pas venu à Dieu par le sacrifice de la croix. Si d'abord, on n'a pas reçu ce témoignage en nous-mêmes, par le Saint-Esprit, par la parole, tu es juste. Tu es dans la faveur de Dieu. Et alors, à ce moment-là, je peux déployer et marcher par la foi. Au fond, nous n'avons rien. Nous n'avons rien encore. Nous n'avons rien. Nous avons le salut de notre âme, nous avons le pardon de nos péchés, mais tout le reste, nous l'avons pas. Un chrétien qui vit pour un objet visible, qui agit pour un objet visible, n'agit pas comme chrétien. Tout ce que le chrétien a, c'est des choses invisibles. Invisibles. Et alors, combien c'est important la foi? Et n'oublions pas que la foi se développe. Faut pas croire que je reçois la foi et puis elle se développe, elle croit, elle se fortifie. D'ailleurs, en cela, Dieu nous aide. Dieu nous aide. Il nous fait passer par les circonstances difficiles, éprouvantes, justement pour épurer cette foi, pour la débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de réaliser la présence de Dieu. Eh bien, nous n'avons rien. Mais nous avons tout en espérance. Et c'est bien juste. Le verset du cantique est excessivement juste. Sans la marche de la foi, ma vie est languissante. Et c'est ça. Pensez donc si nous marchions par la foi, si nous faisions intervenir Dieu, si nous réalisions la présence de Dieu. Mais qu'auraient pour nous les choses de la terre? Quelle valeur auraient-elles? Aucune. Pourquoi ces choses de la terre ont souvent trop de valeur? Parce que les choses du ciel n'ont pas assez de valeur pour nous. Parce que notre foi ne sait pas les saisir comme nous devrions le faire. Mais Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la vie, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné la foi. Que faisons-nous de tous ces dons précieux que Dieu nous a donnés? Et tout cela, vous savez, cette vie divine, la foi, tout cela, se plaît uniquement dans les choses de Dieu, dans les choses éternelles, dans la maison du Père. Nos cœurs devraient être effolants. Et nous verrons ainsi comment la foi, cette étoile, se manifeste dans la patience, dans la confiance, dans l'énergie qui sait vaincre tous les obstacles, une foi que le monde ne peut pas comprendre, une foi qui a la connaissance des pensées de Dieu et que rien n'arrête. Elle voit le chemin de Dieu et ainsi elle va dans ce chemin appuyée sur Dieu.
Que de merveilles dans ce chapitre 11. La parole nous parle de cette nuée innombrable de témoins. Mais à la fin du christianisme, quand il n'y a plus que la forme de la piété, alors nous trouvons un seul témoin fidèle et véritable, Jésus-Christ. Dans cet épître, la gloire, la majesté du Seigneur est particulièrement en évidence, parce que le sujet de l'épître, c'est la manière de nous approcher de Dieu. Alors nous ne sommes pas étonnés de voir toute la valeur du sacrifice de Jésus, le seul sacrifice qui est à la fois le parfait holocauste, la parfaite offrande de gâteau, le parfait sacrifice pour le péché. Et le parfait sacrifice, nous le trouvons au chapitre 10 qui précède le nôtre. Mais comme dans ce sujet, il s'agit de nous approcher de Dieu, alors au milieu des titres très nombreux de la personne adorable de Jésus, nous y trouvons surtout et avant tout le grand souverain sacrificateur. C'est un sacrificateur qui a la sacrificature intransmissible. Et c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de lui, parce qu'il est les saints, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs. Cet épître appelle à notre mémoire tout l'enseignement de l'Ancien Testament, et particulièrement du livre du Lévitique. Vous vous souvenez que Aaron ne pouvait pas entrer constamment dans la présence de Dieu. Nous pouvons entrer, nous avons toute liberté. Ayant donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacré à travers le voile, approchons-nous. Revenons un peu en arrière dans le livre du Lévitique, lorsque le jour des expiations, Aaron devait entrer. Aaron était médiateur d'une façon générale, mais ce jour-là, il représentait le peuple. Et comment pouvait-il entrer? D'abord en offrant des sacrifices pour lui-même, pour sa maison ensuite, et aussi pour le peuple. Parce que représentant le peuple, il se trouvait dans la présence de Dieu. Les conditions requises, c'était le sacrifice qui devait être offert sur l'autel des reins. Alors, la parole nous parle de ce lieu saint, où sur le propitiatoire, le sang était déposé. Dans le jardin d'Éden, les chérubins étaient là pour garder l'entrée du paradis, afin que des pécheurs ne vivent pas éternellement. Dieu voulait des pécheurs sauvés par grâce dans sa maison, mais parfaits. Et alors les chérubins empêchaient l'accès à l'arbre de vie
mais dans le tabernacle constitué par le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, les chérubins étaient partout. Ils étaient sur le voile et puis ils étaient extraits du propitiatoire qui était constitué par un seul matériau de l'or pur. L'arche était constituée par deux matériaux, le bois et l'or pur. Mais sur le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle, il y avait le sang. Et tiré du propitiatoire, deux chérubins qui ombrageaient le propitiatoire. Et ils étaient là comme arrêtés, incapables d'exécuter le jugement parce que, et comme en extase devant le moyen que Dieu avait trouvé pour amener l'homme à lui dans la perfection, de telle sorte qu'un pécheur puisse se tenir, un pécheur sauvé par grâce, puisse se tenir devant Dieu en amour. Alors, les chérubins regardaient le sang. Et ils étaient en extase devant le moyen que Dieu avait trouvé. Le premier exemple qui nous est donné, c'est le sacrifice qu'Abel a offert. Le sang a été versé. Mais, chers amis, pour nous, il est impossible que le sang de taureaux et de bouc ôte le péché. Il fallait un autre sang que celui-là. C'est le sang qui fait propitiation pour l'âme, chapitre 17 du Lévitique. Et comment? Il fallait le sang précieux de Jésus. Nous avons été rachetés de notre vaine conduite qui nous avait été enseignée par nos pères, non par de l'or ou de l'argent, des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus. Et les chérubins étaient là, arrêtés dans l'exécution du jugement, parce que le sang de Jésus devait couler un jour pour que nous soyons rachetés. Et alors, dans ce passage de l'Épître aux Hébreux que nous aimons particulièrement, Jésus est entré non pas dans le tabernacle, copie des lieux saints, des vrais, mais il est entré dans le ciel même avec son propre sang pour paraître pour nous devant la face de Dieu. Et alors, voilà qu'Abel a offert le sacrifice qui convenait, c'est-à-dire le sang de l'agneau. Et pour nous, c'est cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus, c'est ce nom si précieux à nos cœurs, c'est son nom personnel. C'est celui que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier d'un amour infini. Parce que pour lui, les souffrances de la croix, les souffrances indicibles, Jésus a enduré les souffrances de la part des hommes toute sa vie durant, depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix. Mais pendant ces 3 heures de ténèbres, alors que le Seigneur était fait péché pour nous, alors qu'il subissait là sur la croix la condamnation du péché dans sa chair, alors qu'il endurait le châtiment qui nous apporte la paix, le Seigneur Jésus a été abandonné de Dieu, privé de la communion avec son Père. Et il n'était pas suffisant que le Seigneur endurât les souffrances expiatoires que personne ne pouvait partager. Il fallait qu'il laissât sa vie. Par ceci, dira l'apôtre de l'amour, nous avons connu l'amour. C'est que lui, Jésus, a laissé sa vie pour nous. Il a donné son sang précieux. Eh bien, chers amis, que la personne de Jésus soit toujours présente à nos yeux, même dans ses exhortations pratiques. Oui, dans cette nuée de témoins, eh bien, toute cette nuée disparaît pour que nous fixions nos regards, les regards de notre foi, sur le seul témoin fidèle et véritable, Jésus.
La foi saisit l'existence d'un Dieu créateur qui a tous les droits, c'est le créateur. Et puis, d'un Dieu rédempteur, sacrifice d'Abel nous parle cette justification par la valeur du sang versé, comme on vient de dire. Alors ce Dieu qui est connu comme dans sa puissance, dans les exigences de sa sainteté, et puis dans ce qu'il a donné lui-même pour que soient satisfaites ses exigences auxquelles l'homme ne pouvait répondre, c'est un Dieu avec lequel l'homme racheté est appelé à marcher. Et voilà l'exemple d'Enoch. Enoch, nous dit le chapitre 5 de la Genèse, marcha avec Dieu 300 ans. On a souvent souligné cette expression, ah, marcher avec Dieu, combien de temps marchons-nous avec Dieu? Il nous arrive, dans un certain moment, de faire un bout de course, pratiquement bien avec lui. Et puis, comme facilement une pensée étrangère vient nous détourner de cette marche avec lui, cette communion avec lui. Voilà un homme qui, par la grâce de Dieu, marche 300 ans. C'est l'effet de la foi. La foi lui rendait Dieu présent. Il croyait que Dieu est. C'est un point essentiel. Mais ce n'est pas là seulement ce que saisit la foi, hélas. Les démons eux-mêmes savent que Dieu existe et ils frissonnent, nous dit Jacques. Mais Enoch saisit qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il sent le prix d'une marche avec Dieu. Et sentant le prix de cette marche, sa valeur, il la réalise. Et il plaît à Dieu. Sans doute, il faut toute l'action puissante de Dieu par son esprit. Car si dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans le croyant, elle était tout de même une puissance active qui les soutenait. Et voilà que par la grâce de Dieu, Enoch fournit cette marche. Il plaît à Dieu. Et alors, puisque nous sommes appelés à rechercher dans ce chapitre tout particulièrement des exhortations et des points qui touchent notre conscience, qu'en est-il ? Nous avons d'autres lumières qu'Enoch. Enoch, sans doute, avait une vue des choses à venir. Il y a une prophétie d'Enoch en Jude. Mais tout cela était encore dans les ombres et les figures de l'Ancien Testament. Et nous pour qui toutes choses sont claires, et qui avons été appelés à marcher dans la lumière, qui sommes des enfants de lumière, nous qui avons avec Dieu des relations de façon familiale, tout à fait particulière, fils, fille, enfant du Dieu vivant, comment marchons-nous avec Dieu? Enoch plut à Dieu. Il a reçu ce témoignage. Non pas un témoignage rendu à l'extérieur, mais comme tous ces témoignages que nous avons là, il a reçu en lui-même le témoignage d'avoir plu à Dieu. Marchons-nous avec cette heureuse conscience, ce témoignage au-dedans de nous-mêmes que nous sommes là dans le chemin qui plaît au Seigneur. Les exhortations sont multiples dans les épîtres. Nous appliquons avec ardeur à lui être agréable. Comment il faut plaire au Seigneur? 2 Corinthiens 5, Colossiens 1. Plaire au Seigneur. Il a plu à Dieu. Comment? Par la foi. Une foi un exercice, une foi qui me fixe les yeux sur celui qui a marché devant et qui le suit de près, ce que nous trouverons au chapitre 12. Lui a marché, lui a plu. Il faisait toujours les choses qui plaisent à son Père. Et nous sommes engagés dans le chemin à sa suite. Et nous avons devant nous, de façon certaine, ce qui a été donné à Enoch, comme fin de sa foi, enlevé, Dieu le prit, il ne fut plus. Voilà, placé devant notre foi, quelque chose de certain et quelque chose de tout proche, car le Seigneur dit, je viens bientôt. Nous savons que nous avons là, dans Abel, le type du croyant qui trouve la justification par la foi dans le sang de Christ. Nous avons dans Enoch le type du croyant qui marche et qui sur la terre a ce privilège de marcher à la gloire de Dieu dans la responsabilité qui lui incombe, un privilège de servir qui ne sera plus le même là-haut, et puis qui a la certitude que bientôt il va être enlevé.
On est à Jésus, on n'est plus de la terre, on est du ciel. On possède une vie que la mort ne peut pas toucher, une vie impérissable. Et il y a dans la puissance du Rédempteur, dans cette puissance de vie, la capacité, le pouvoir d'absorber ce qui est mortel en nous pour nous introduire ainsi dans le ciel, dans la gloire, avec un corps glorieux semblable à celui du Seigneur. Et Enoch est enlevé. Mais en attendant, il y a la marche. Et si Dieu nous laisse dans ce monde, c'est pour y être ses témoins. Et pour marcher en conséquence de ce que nous sommes, sans oublier que nous sommes des enfants de Dieu. Nous souvenons de cette exhortation présentée justement dans l'Épître aux Éphésiens, soyez les imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. Il nous a dit cette expression, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est pas croire froidement à l'existence de Dieu, mais c'est croire à ce que Dieu est. Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de justice, le Dieu de sainteté. Quand je m'approche ainsi de Dieu, il faut par la foi avoir ainsi la connaissance de ce qui est la pensée de Dieu à l'égard de toutes choses. Il faut avoir ainsi la connaissance de ce qui est agréable à Dieu, ce qui lui plaît, dans tout ce qui peut se présenter dans ma vie de chrétien, de croyant, ici-bas. Et nous pourrons ainsi nous approcher de Dieu et réaliser ainsi cette connaissance de Dieu ayant comme résultat pratique une marche qui soit à sa gloire. Un choix à faire. Il y en a des choix à faire dans la vie. Je ne dois jamais le faire, jamais le prendre, sans avoir ainsi la pensée de Dieu à l'égard de ces choses. Ce serait-ce que le choix d'un vêtement. Ce que je dois me demander comme chrétien, comme croyant, pour marcher avec Dieu dans sa présence, dans sa compagnie, il faut que je cherche la pensée de Dieu, même à cet égard. Même à cet égard. Dans un sens, je n'ai plus la liberté de faire ce que je veux. Mais c'est pas pénible, au contraire. Ce qui me plaît, c'est de chercher la pensée de Dieu, ce qui me plaît à Dieu, et ce qui me plaît, c'est justement de l'accomplir pour Dieu. C'est ainsi qu'on marche avec Dieu. On marche avec Dieu. Et quand on connaît un peu cette marche, cette communion avec Dieu, On manque, n'est-ce pas? Nous faisons tous des faux pas. Nous ne pouvons pas réaliser, en effet, cette marche d'une manière bien régulière. Souvent, il y a des faux pas. Mais qu'est-ce que je vois? Immédiatement, je le sentirai. Parce qu'il n'y a rien de tel pour rendre une conscience exercée que de marcher avec Dieu. Éloignez-vous de Dieu, votre conscience sera plus ou moins endormie. On assiste, exemple. J'ai un vêtement sale, une tache de plus ou une tache de moins, ça ne se voit pas. Mais si j'ai un vêtement propre, une robe propre, la moindre tache se voit. Marchez avec Dieu, immédiatement, si vous manquez, il y aura une réaction de votre conscience qui vous dira, eh bien là, tu as manqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Venir à Dieu, eh bien j'ai manqué. J'ai manqué, j'ai fait un faux pas. Il ne faut pas rester dans cet état-là, il faut venir. J'ai manqué. Ce qui serait bien plus grave, ce serait de rester dans cet état-là, parce qu'alors, que fait la conscience? Elle s'endurcit. Elle s'endurcit de plus en plus. Et alors, on ne marche plus avec Dieu, on marche avec ses propres pensées, on marche avec son propre cœur, on marche avec sa propre volonté, et c'est un chemin de peine, de souffrance, alors que de marcher avec Dieu, c'est un chemin de bonheur. C'est un chemin de paix, c'est un chemin de foi. Il n'y a rien de pénible pour l'homme nouveau de ce qui, ainsi, de ce qui plaît à Dieu. Au contraire, on se plaît dans ces choses. Que c'est précieux d'avoir reçu ce témoignage, d'avoir plu à Dieu. Abel avait reçu ce témoignage d'être juste, et maintenant Enoch reçoit ce témoignage d'avoir plu à Dieu. Voilà une vie qui n'est pas perdue. Voilà une vie toute à la main de Dieu. Et comme on l'a dit, pour marcher avec quelqu'un, si deux parties ne sont pas d'accord, comment voulez-vous qu'ils marchent ensemble? Il faut qu'il y ait un plein accord, une pleine communion, une pleine confiance en ce Dieu qui est pour nous. C'est le Dieu qui est. C'est Dieu qui s'est révélé. Maintenant, notre pensée, il est question de la rémunération. Rémunération. Tout ce qui est fait pour Dieu, Dieu nous le rendra au centuple. Tout abandon que nous faisons de ceci ou de cela pour le Seigneur, pour Dieu, sans que personne l'ait vu, Dieu l'a vu. Il nous rendra au centuple. Mais ce n'est pas la pensée de la rémunération qui nous a engagés dans ce chemin. Qu'est-ce qui nous a engagés dans ce chemin? C'est le Seigneur. C'est l'amour au Seigneur qui me fait marcher dans ce chemin, dans la dépendance. C'est cet amour-là pour le Seigneur. Que notre amour pour le Seigneur soit endormi, vous ne pourrez pas marcher dans le chemin pour le Seigneur. Il faut que nos affections, notre amour pour le Seigneur, soient réveillées et soient toujours en activité pour que nous puissions marcher avec Dieu. Mais ce n'est pas pour la rémunération. Ce n'est pas le motif qui nous engage. Non pas que la rémunération n'est pas un encouragement pour nous, c'est un encouragement. Parce que nous sommes très bien, on l'a bien souvent assez dit dans l'Apocalypse, on reçoit un nom que personne ne connaît, sinon celui qui porte. Quel que c'est? C'est la conséquence, le résultat d'une marche qui a été faite avec Dieu, avec le Seigneur, c'est la rémunération qui sera ainsi manifestée à ce moment-là, quand toutes les choses seront révélées.
Il y a la marche avec Dieu, mais il y a aussi la marche devant le monde. Nous marchons avec Dieu et nous marchons au milieu des hommes. Et voilà Noé. Noé reçoit une révélation. Dieu ne lui cache pas ce qui doit arriver bientôt, le jugement du déluge qui va tomber sur le monde entier. Et par la foi, ainsi averti, nous le voyons qui craint et il bâtit une arche. Cette considération du jugement de Dieu à venir, auquel il échappera par la foi, joint à la crainte, c'est ce que nous trouvons, nous, au chapitre 5, la deuxième aux Corinthiens. Considérant combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes. Ceci fait suite à la pensée du jugement, du tribunal, une sainte crainte. Noé craint. Il n'a rien à craindre pour lui-même. Dieu lui a indiqué l'échappatoire, la façon d'échapper à ce jugement qui va tomber sur toute la terre. Sa foi saisit ce qui lui est dit, il obéit, il construit une arche, et il est là pendant tout le temps la construction de cette arche, le témoin devant les hommes, le témoin de Dieu. Il annonce le jugement qui va tomber là sur la terre. Objet de raillerie sans doute, témoin fidèle, poursuivant ce que Dieu lui a prescrit, il bâtit une arche et c'est son salut et le salut de sa maison. Nous avançons comme Enoch vers une échéance certaine, le Seigneur va nous enlever. En attendant, nous marchons avec lui. Nous marchons aussi devant ce monde. Des témoins ayant à proclamer que ce monde va tomber sous le terrible jugement. Témoins aussi de ce que, individuellement, chacun de ceux qui marchent loin de Dieu aura affaire au jugement encore bien plus terrible, la comparution devant le grand trône blanc. Et nous sommes témoins de ces choses, ambassadeurs pour Dieu. Et comment remplir une telle mission ? Une fois de plus, revient en tête la phrase, cette expression, cette fois répétée, par la foi. Par la foi, Noé. Il condamne le monde. Il proclame là cette condamnation et ce jugement qui vont fondre. Et lui-même devient héritier de la justice qui est, et le mot revient encore, selon la foi. Il y a des jugements qui sont imminents, qui vont fondre ici sur ce monde. Il y a autre chose dans l'avenir. Il y a des choses glorieuses. Pour cette terre même, n'est-ce pas, il y a une période magnifique de paix sous le sceptre du roi de justice. Il y a une éternité de bonheur. Il y a tout ce qui appartient à quoi ? À la justice. Le domaine des justes. Et c'est là que nous allons entrer. Et tout à la fois, nous sommes là témoins, proclamant que la part de ceux qui refusent le message de Dieu, ce sont d'abord des jugements terribles pour la terre et bientôt une condamnation éternelle, et que la part des justes, l'héritage de la justice, c'est quelque chose de glorieux que nous avons saisi pour nous-mêmes et que nous proclamons ouvert à tous.
Comment Noé a condamné le monde? Quelle a été sa prédication de Noé pour condamner le monde? Construire une arche, croire Dieu, craindre Dieu et faire ce que Dieu lui disait. Il fallait la foi, construire une arche au milieu des terres. Il fallait la patience de la foi pour la construire pendant 120 ans. Voilà sa prédication. Quelle est la plus forte prédication que nous pouvons donner au monde du fait que le monde va sous les terribles jugements, parce que Dieu a choisi l'homme et l'a destiné à cela. Il en a donné une preuve. La preuve qu'il nous donne pour nous certifier de notre salut et du fait que nos péchés ne sont plus, c'est la résurrection de Christ entre les morts. La preuve que Dieu va juger le monde, c'est le fait qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Parce que Dieu veut que son bien-aimé, qui a souffert sur cette terre, qui a été le méprisé, le rejeté, celui qu'on a vu fatigué dans le chemin, ayant faim et soif, Dieu veut qu'il soit reconnu, non pas simplement le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et nous sommes appelés chrétiens, croyants, rachetés, à être des témoins comme Noé. Eh bien, quelle doit être finalement la plus grande force de notre témoignage? C'est de nous détacher des choses de la terre. C'est montrer clairement que nous avons des biens meilleurs. C'est nous fermer nos cœurs à tout ce que le monde nous présente. Quel genre devriez-vous être en sainte conduite et en piété? La sainte conduite devant les hommes et en piété nos rapports avec Dieu, tout ça est lié. Je ne peux pas être comme il convient devant le monde si je ne suis pas d'abord avec Dieu dans mon cœur, dans mon âme. Eh bien voilà. Et aucun racheté, aucun croyant qui est retiré de ce présent siècle mauvais, qui ainsi s'engage et s'est engagé vers le ciel, aucun croyant peut dire qu'il ne doit pas être un témoin dans le sens où il nous est parlé ici de Noé, au milieu de ce monde où nous sommes laissés. C'est un témoignage. Et nous pouvons le faire par la foi. C'est la foi et cette puissance qui peut nous donner de réaliser un tel témoignage, parce que comme on l'a dit, la foi fait interdire Dieu.
Nous ne pouvons que placer quelques jalons ici et là dans ce vaste panorama que nous offre ce chapitre 11 des Hébreux. Nous arrivons avec Abraham à celui qui est appelé le père des croyants. C'est la caractéristique particulière d'Abraham. C'est un homme de foi, essentiellement. Il est appelé à sortir de son pays, de sa parenté, ne sachant où il allait. Ah, voilà bien l'absolue confiance qui caractérise la foi. Dieu l'appelle, il obéit. Il s'en va, ne sachant où il allait. Sans direction précise, Dieu ne lui dit pas « va en Canaan ». Dieu commence par lui dire « sors ». Il sort. « Va, il va ». Où ? Il ne le sait pas. Dieu le sait, ça lui suffit. Elle est magnifique, cette caractéristique de la foi d'Abraham dans son départ et dans son acheminement vers le pays de Canaan. Il marche vers l'inconnu. Dieu sait, cela lui suffit. Nous savons bien que dans tout ce chapitre, l'Esprit de Dieu passe sur les défaillances. Il n'est pas question là de l'arrêt à 40. Il s'agit à 40, il a simplement la sortie, la marche. Abraham va. Et dans ce lieu qu'il devait recevoir pour héritage, c'est tout ce que Dieu lui avait dit. Voilà qu'il demeure comme dans une terre étrangère. Dieu lui dit, va, je te donnerai un pays en héritage. Et ce pays, il n'en prend pas possession. Quelle marque de foi aussi. Il avait discerné autre chose que les promesses terrestres. Et dans ce pays que Dieu lui donnait, que Dieu donnait à sa semence, il réalise de façon constante une vie d'étranger. Il attend la cité qui a les fondements. Et sur la terre dans laquelle il va et vient, en prenant possession par la foi dans ses allées et venues. Il n'a pas de fondement. Il n'a qu'une tente de toile. Étranger, il attend autre chose. Il demeura dans la terre la promesse. Ah, cette terre prend ce caractère. C'est la terre promise. Et Dieu lui avait dit, je te le donnerai à toi et ta semence. Ça lui suffit. C'est la terre promise. Et il jouit de cette terre promise, sans doute plus qu'aucun de ses descendants qui y ont habité par la suite. Il en avait la possession par la promesse de Dieu. C'était la terre de la promesse. Mais il y réside comme dans une terre étrangère. Il n'en prend pas possession. C'est Dieu qui doit la lui donner. Il attend la main de Dieu. Et il l'attendra aussi longtemps qu'il vivra, car sa vie doit être tout entière, jusqu'au bout, une vie de foi. Marquée, comme nous le voyons par la suite, par d'autres exercices d'une foi triomphante. Un homme de foi. Il ne va pas s'attarder à la possession des choses que Dieu lui donne. Qu'est-ce qu'il a lui pris pour nous? Dieu nous accorde bien des bénédictions. Il y a des choses que nous prenons de sa main. Ne serait-ce que les joie si précieuse de la famille. Nous les tenons de lui. Et qu'est-ce qu'il a lui pris pour nous? Ce qui nous est donné ou le donateur? Ce qui fait le prix de toute chose pour Abraham, c'est que Dieu donne. La terre, c'est la terre de la promesse. Le peuple ensuite regardera vers elle comme vers un pays ruisselant de lait et de miel. Il n'est pas question de cela ici. Pour Abraham, Canaan aurait-il été un désert de cailloux? La terre, la promesse, ce que Dieu donnait. Et sa foi est telle qu'elle est communicative. Et sa semence, il y a une semence immédiate. La venue de cette semence fait l'objet d'autres considérations. Mais déjà, Isaac, voilà un fils. Et puis Jacob, voilà un petit-fils. Et puis, eh bien, la foi est tellement communicative que sur cette terre, ils vivent de la même façon que le patriarche. Nous ne voyons pas Abraham établir Isaac en possession du pays. Pourtant, c'était la semence que Dieu lui avait donnée. Mais la foi d'Abraham voyait tellement au-delà. Une leçon, là aussi, pour nous. Nous cheminons sur la terre et réalisant plus ou moins notre caractère d'étranger, de pèlerin. Et souvent, hélas, nous ne savons pas, pour ceux qui viennent après nous, pour nos enfants, borner nos désirs à ce que Dieu nous a permis de réaliser, une vocation d'étranger. Nous sommes plus ambitieux, quelquefois, pour nos enfants que pour nous-mêmes. Quelle leçon! Abraham vit un étranger, mais cette vie d'étranger est entièrement partagée par Isaac, et nous est-il dit même par Jacob.
On peut dire que la marche par la foi, c'est le sujet de beaucoup d'épîtres, et nous pouvons mettre en contraste la maison que Lot avait construite, ou avait habité dans Sodome. Pour Abraham, il voyait de loin la cité qui a des fondements. Il les avait salués, et nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce pour nous la marche de la foi? Nous l'avons vu, pour Enoch, c'était une compagnie, c'était Dieu lui-même. Pour nous, ce que la parole de Dieu nous propose, c'est une progression constante, dont Christ seul est l'attrait et la force. Ce qui pouvait faire dire à Jean-Baptiste, lorsqu'il voyait Jésus marcher, « Voilà l'agneau de Dieu ».
Aussi, et voir là que Dieu éprouve toujours la foi, toujours la foi. Il nous est dit dans l'épître de Pierre que la foi est plus précieuse que l'or. C'est plus précieux que l'or. La foi nous permet de saisir et de nous promener dans un domaine qui échappe entièrement au sens naturel. S'il y a une définition de la folie, c'est bien cela, partir dans un lieu où on ne sait pas où on va. Comme il nous a dit justement là, il s'en alla mais sachant où il allait. Aux yeux du monde, la foi c'est la folie. Parce que la foi regarde à Dieu et compte sur Dieu. Le premier caractère de cette foi à Abraham, c'est qu'il obéit. Il obéit. Dans l'épître aux Philippiens, il nous est dit dans le chapitre 2, je crois, que nous sommes appelés à faire toute chose, sans murmure et sans raisonnement. Toute chose. C'est-à-dire que nous devons faire, quand Dieu nous appelle, à faire telle ou telle chose et à marcher dans tel ou tel chemin, sans murmure. Qu'est-ce qui produit dans nos cœurs le murmure, une volonté qui n'est pas prise. Une volonté qui n'est pas prise. Qui est-ce qui fait que les épreuves que nous rencontrons et que Dieu permet ainsi troublent nos âmes? C'est que là, il y a quelque chose que Dieu a besoin de visiter. Il y a quelque chose de propre volonté ou de sentiment personnel ou charnel que Dieu doit laisser. Alors la première chose que fait la foi, elle obéit. Ne sachant où il allait, il ne conteste pas. Alors justement, dans cet épître aux Philippiens, la deuxième chose, sans raisonnement. C'est ça, sans raisonnement. Et c'est très important maintenant. Nous ne devons jamais nous approcher de la parole de Dieu avec ce raisonnement, qui devient un raisonnement charnel. Comment oser raisonner sur ce qu'est la parole de Dieu, quand c'est Dieu qui parle? Quand c'est Dieu qui dit cela, et c'est oser raisonner, mais nous devrions nous tenir devant la parole de Dieu avec crainte, avec respect, avec le seul désir de connaître et à la fois ce que nous sommes et ce qu'est Dieu. Et alors, il est dit, justement, il s'en alla au lieu qu'il devait recevoir pour étage, et il s'en alla ne sachant où il allait. Deuxième chose, il ne reçoit rien. Il est là comme un étranger. C'est tout à lui. Comme nous aussi, le monde est à nous. Le monde est à nous. Mais nous ne devons rien avoir dans ce monde. Est-ce que Christ a quelque chose dans ce monde? Non. Pour jouir de tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui sera la bénédiction millénaire, nous attendons que Christ prenne son pouvoir. Ce que nous avons à faire, c'est suivre un Christ méprisé, et rejeté. Croyez-vous que si le Christ venait maintenant, il ne serait pas rejeté de la même manière? De la même manière. De la même manière. Pourquoi? Mais parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Et parce que Satan est toujours là. C'est deux choses. Et alors ici, justement, il demeura l'Éternel, mais sa foi à l'épreuve. Nous savons, et nous le verrons plus loin, dans quelle épreuve aussi cette foi il a été placé. Et alors il demeura, il n'avait rien. Vous savez ce qu'il a dû faire? Il a dû acheter un sépulcre pour ensevelir Sarah. Il n'avait rien. Eh bien, avec qui était-il? Sur quoi s'appuyait-il? Sur la promesse de Dieu. Il était avec Dieu. Et on gagne toujours à être avec Dieu. Alors, des choses bien plus merveilleuses que les choses terrestres lui sont révélées. C'est plus les tentes fragiles d'un désert, c'est une cité que sa foi salue. On a gagné. On gagne toujours avec être avec Dieu, être du côté de Dieu. D'un côté, on semble tout perdre, mais de l'autre côté on gagne. Et de quelle mesure? Eh bien, que nous n'hésitions pas à perdre tout ce qu'il y a dans le monde, et avec Dieu, pour que Dieu puisse nous donner, nous révéler cette pièce, quelque chose de merveilleux, une cité, qui a les fondements. On n'a pas dit qu'il y a des fondements. Les cités dans ce monde, elles ont des fondements, elles sont toutes ébranlées. Rien ne subsistera de toutes les cités que l'homme a tracées, a construites dans ce monde, avec les fondements les plus solides que l'on peut imaginer. Mais ici, c'est la cité qui a les fondements, quelque chose d'inébranlable. Et la foi toujours produit cette qualité très difficile pour nous à réaliser, la patience. On attend. Et il attendait. Il a attendu toute sa vie. Toute sa vie, il a entendu. Est-ce que vous croyez qu'il a perdu quelque chose? Rien. Rien. Il a été avec Dieu, et Dieu saura un jour récompenser la foi de ses patriarches, la foi des saints qui ont attendu mais qui n'ont pas reçu la chose promise. Et vous croyez que c'est rien pour Dieu, ça? C'est ainsi montrer à Dieu que lui, est pour nous, est au-dessus de tout.
Petit mot, leur avance. Nous arrivons avec Sarah à l'un de ces exemples qui nous ont été présentés tout à l'heure comme des exemples encourageants. Encourageants parce que nous ne sommes pas là devant des héros de la foi, mais devant des personnes que l'Ancien Testament nous présente dans une grande faiblesse, de foi. S'il est une présence qui peut surprendre dans ce chapitre, c'est bien celle de Sarah. Car nous pourrions dire qu'elle est, à notre jugement, nous la trouverions comme un exemple d'incrédulité. Quand, au chapitre 18 de la Genèse, Dieu vient annoncer à Abraham la naissance de ce fils, elle rit. Elle rit dans l'incrédulité. Mais dans cette même scène, nous trouvons un moment solennel. Quand Sarah, qui est là, écoutant derrière la porte, derrière la tenture, entend cette sentence de Dieu. Ce même Dieu qui dit « Sarah aura un fils » a dit aussi « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Elle était cachée. Et c'est le Dieu qui voit tout. Et nous pouvons dire que c'est là le tournant dans la vie de Sarah. Elle eut peur. Ah, elle a été saisie comme tant d'autres, comme une Samaritaine, comme tant d'autres. Elle a été saisie par la toute science de celui devant qui elle se sentait nue et découverte. Elle pensait bien que son sourire incrédule était caché. Sarah rit. Elle pleure. Et c'est un tournant dans sa vie. Et nous la trouvons à partir de ce moment-là femme de foi. Et c'est une femme de foi qui reçoit cette force d'enfanter. Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité. Voilà la foi qui reçoit la force. La force que Dieu seul peut donner. Et Dieu donne cette force lorsqu'il n'y a aucune ressource humaine. C'était une dérision aux yeux de l'homme que cette naissance promise d'Isaac, un homme de 100 ans, une femme de 90 ans, elle reçoit par la foi la force enfantée. Jusque-là, elle avait suivi Abraham, elle avait vécu dans l'ombre de l'homme de foi. Il y avait un tournant, et ce tournant est marqué
par ce don de la force. C'est le Dieu qui renouvelle la force à celui qui est là, mais à qui ? À ceux qui se confient en lui, trouvons-nous dans ce passage d'Ésaïe. C'est la force donnée répondant à la confiance. Et elle reçoit la force de fonder une postérité dans des conditions impossibles à l'homme. Et la récompense, la foi. Ah, elle est bien à la mesure de la grâce de Dieu. Desquels sont nés des gens qui sont comme les étoiles du ciel en nombre et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne peut se compter. Multitude à double face. Il y avait promis pour le patriarche une multitude comme le sable de la mer. Le peuple d'Israël, les multitudes d'Israël, les milliers d'Israël pour la terre. Mais il y avait autre chose. Il y avait une multitude comme les étoiles des cieux, une multitude à caractère céleste. Et Dieu établit dans l'Écriture, et voyons cela tout particulièrement en Romains 4, Dieu établit Abraham comme père des croyants. La multitude de ceux qui viendraient à croire sont la foi qui était en Abraham. La foi d'Abraham, père d'une multitude, multitude de croyants. Et la bénédiction céleste vient là, énoncée dans la promesse de Dieu, dans ce qui est dit ici, avant la promesse terrestre. De cet homme-là sont nés des gens qui sont d'abord comme les étoiles du ciel, puis comme le sable de la mer. La foi de ce couple, considéré par Dieu, génératrice de une multitude de ceux qui sont enfants d'Abraham par la foi, avec l'accompagnement de la multitude des fils selon la chair.
La foi ne se meut pas seulement devant les difficultés, elle se meut devant les impossibilités. Du moment que l'homme est capable de faire une chose, c'est plus la foi. La foi, justement, et c'est ce qu'elle dit, cette expression qui est là, elle estime Dieu fidèle. Quand il a vu humaine, il semble qu'il n'y a aucune issue, et Dieu permet que nous soyons jusque-là. C'est très difficile à nous de réaliser que nous sommes rien, que nous ne pouvons rien. C'est très difficile. Nous avons toujours tendance à nous appuyer sur quelque chose qui se voit. Toujours. Mais Dieu nous enseigne. Dieu nous donne ceci, nous donne cela. Dieu éprouve notre foi, comme ici nous voyons pour Sarah et Abraham. Et dans la dernière extrémité, alors Dieu intervient, et parce que la foi de Sarah, alors, a agi, elle a reconnu que Dieu était fidèle, et alors Dieu intervient. Combien nous avons besoin de demander à Dieu que nous ayons cette foi-là, cette foi-là. Alors, comme le peuple était invité devant la mer Rouge, demeurez tranquille, car moi, je suis Dieu.
S'est adressé à des croyants qui risquaient de se décourager dans le chemin. Ils avaient bien commencé, mais il ne s'agit pas simplement de commencer, il faut aussi continuer. Et l'apôtre vient, et Dieu vient par cette écriture, leur dire qu'encore un peu de temps et très peu de temps et celui qui vient viendra. Et en attendant ce moment où alors la vue aura fait place à la foi, il fait défiler devant eux une lignée d'hommes de foi. Et cette foi qui honore Dieu et cette foi que Dieu se plaît à honorer, elle est individuelle elle est personnelle. Lot n'a pas pu marcher avec les jambes d'Abraham. Nous ne pouvons pas marcher avec la foi de nos parents. Il nous faut avoir nous-mêmes affaire avec Dieu quant au salut, mais quant à la marche aussi, une marche de tous les jours, une marche où il y aura quelque chose à relever et qui sera produit à la gloire de Dieu. La foi ne parle pas de ce qu'elle peut faire, elle fait ce qu'elle peut avec la grâce qui lui est donnée. Un cher frère a écrit cela, nous devons le réaliser aussi. La foi devant elle un objet qui l'attire comme un aimant. Et cet objet, c'est Christ. C'est celui qui est le parfait modèle, celui dont il vient d'être parlé dans ces derniers versets qui sont lus. Rejetant tout fardeau, c'est pour nous aujourd'hui, pour nous cet après-midi, et que de fardeaux qui peuvent nous attarder dans le chemin, ces chers croyants ont dû les rejeter, ont dû laisser là ces choses pour courir la course qui est devant eux, fixant les yeux sur Jésus. Tout au début de l'Épître, chapitre 3, il était appelé à considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus. L'apôtre, c'est l'envoyé, c'est celui qui est venu parler de la part de Dieu aux hommes. Et le souverain sacrificateur, c'est celui maintenant qui parle des hommes à Dieu. C'est celui que nous avons, c'est celui qui est devant nous et qui avait un objet. À cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix, il a méprisé la honte et il est maintenant assis à la droite de Dieu. Oh, considérant une telle personne, et notre foi est accrochée non pas à des choses visibles, mais à ces choses invisibles, à ces certitudes éternelles, nous puissions courir la course qui est devant nous. J'aimerais relire un passage qui était cité ce matin dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous en mesure surabondante un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Dieu n'a pas voulu nourrir notre curiosité en nous citant quelques noms. Il les a relevés. Il y a certains actes de foi que nous aurions peut-être pu mentionner nous-mêmes, mais Dieu a tout pesé à la balance du sanctuaire et il a retenu et il nous communique aujourd'hui ce qui a pu honorer, que Dieu a pu sanctionner, ce qu'il a honoré, qu'il a glorifié dans le chemin. Cette liste n'est pas close. Les noms, quelques noms nous sont donnés. Il y en a beaucoup et qui sont compris dans ce dernier paragraphe. Que dirais-je davantage quand le temps me manquera de parler de celui-ci et de celui-là? Et une liste est tenue. Ah, il n'y a aucun racheté qui ne manque à cette liste, le livre de vie de l'agneau. Mais que sera-t-il mentionné à l'actif de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau? Et qu'est-ce que Dieu pourra reconnaître, pourra sanctionner dans nos vies, de ce qu'il a pu produire dans nos vies, nos regards étant fixés non pas sur ces choses qui passent, mais sur ces choses qui demeurent. Il nous est parlé d'un Moïse, il nous est parlé de grands hommes avec qui ont d'une manière particulière glorifié Dieu, et nous lisons par la foi. Aussi bien les uns et les autres pour produire, pour courir la course qui est devant eux, ont dû avoir les yeux fixés sur celui qui est le chef, sur celui qui est invisible. Moïse, voyant ensuite invisible, choisit l'opprobre du Christ, estime cet opprobre le plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Nous avons besoin de foi aujourd'hui, dans ces derniers pas, dans cette dernière étape. Ou alors, oh, tout ce que nous voyons aura fait place aux choses éternelles, à celui qui demeure éternellement, et celui qui seul peut nous donner
de pouvoir courir la course, les yeux sur lui et laissant ainsi quelque chose, des traces droites à nos pieds, un témoignage pour lui, pour ceux qui nous entourent, quelque chose qui sera tourné à sa gloire et à sa louange.